Et voilà, et donc normalement, le but de la marine, ce serait qu'il y ait un hélicoptère et un drone sur chaque bâtiment pour pouvoir se compléter. Par exemple, le drone, en faisant toutes les missions de surveillance et de reconnaissance, vont permettre de pouvoir garder du potentiel à l'hélicoptère pour faire de transport de personnel, transport de matériel, du sauvetage en mer, des choses comme ça.
Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Dans ce nouvel épisode de notre mini-série exclusive sur la mission Jeanne d'Arc 2022, nous allons parler de pilotage de drone à travers la rencontre du premier maître Jocelyn, télépilote de drone S-100 sur cette mission. Il nous parlera des spécificités du pilotage et l'usage des drones sur les navires de combat. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour premier maître, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors je suis le premier de Jocelyn, j'ai intégré la marine, je ne sais pas si vous voulez que juste le parcours marine ou le... Ouais. Donc j'ai intégré la marine en 2011 par l'école de Mestrance. Donc j'ai effectué donc la préparation militaire là-bas, puis après un brevet d'aptitude technique détecteur. Donc travailler dans les radars, dans tout ce qui est détection et maintenance des radars. Par la suite j'étais affecté en sortie de course sur une FASM duplex, donc une frégate anti-sous-marine, avec laquelle j'ai navigué pendant 2 ans et demi, j'ai fait mes premières missions.
Et c'était quoi votre mission sur cette frégate ?
Donc j'ai le travail de détecteur, donc j'étais derrière les scopes radar à faire la veille air et surface pour avoir la situation tactique de l'environnement autour du bâtiment. Je suis monté jusqu'au grade, au poste de haut info, adjoint en formation, donc, qui gère vraiment toute la situation surface et air avec des adjoints et aussi la liaison de données qui permet de discuter entre bâtiments et du coup de récupérer la situation tactique d'un autre bâtiment pour compléter la nôtre et avoir une vue plus générale de la zone autour de la force. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai été désigné campagne. Donc je suis parti 3 ans à La Réunion.
C'est l'équivalent d'un séjour dans l'armée de terre.
C'est ça, exactement. On est affecté pour 2 ou 3 ans sur un territoire outre-mer ou choses comme ça. Donc moi, c'était à La Réunion sur NFS, une frégate de surveillance. J'ai été amené également dans mon travail de radariste. À faire opérateur, adjoint car opération, du bureau opération aussi. Et cela pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été sélectionné pour aller au brevet supérieur. Donc je suis revenu, j'ai fait mon cours. Où là, j'ai été pris en tant que OPSDEM, donc détection électromagnétique. Donc ça, c'est vraiment toujours partie radar. Donc on a 3 sous-branches, on a la guerre électronique, qui est l'interception des signaux radar et fréquences radio pour avoir un préavis sur la position des bâtiments avant même qu'eux nous aient détectés par leur radar. La partie détection électromagnétique qui est la partie tout ce qui est radar, IFF, etc. La détection pure en direct.
En fait, ça détecte un radar Ça détecte un système de détection ennemi, autre.
En fait, nous, on va émettre avec le radar, on va émettre une impulsion électromagnétique qui va aller rebondir sur une surface, qui va revenir, qui va nous donner un azimut et une distance de la cible, de l'objet, on va dire. Et pouvoir avoir une position, savoir qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose qui... il y a une présence. Et après, avec d'autres systèmes de reconnaissance, donc on a par exemple pour les avions l'IFF qui va émettre un signal comme une plaque d'immatriculation pour la voiture, l'AIS donc qui va être la même chose pour les bateaux, donc une plaque d'immatriculation. Et avec ça, et avec des regroupements, et après avec l'aide visuelle, choses comme ça, on arrive à confirmer que c'est par exemple un voilier ou que c'est un avion Air France ou choses comme ça. Et du coup, pouvoir classifier les pistes selon différents degrés de classification par rapport à la menace qu'ils représentent. Et donc, je faisais ça. Et après la troisième sous-branche, donc c'est SDC, système de combat. Donc eux, c'est ce qu'ils vont gérer toute la partie console en fait tactique qui est au centre de l'opération. Donc les consoles qui vont récupérer les informations de tous les senseurs et qui vont les regrouper pour les faire un mixte et donner une situation tactique. Donc moi j'étais vraiment au niveau radar. À la suite de ça, j'ai fait un stage, un certificat de contrôleur d'aéronef. Donc j'étais comment dire, contrôleur tactique. Donc j'étais comment dire, en gros au contrôle à la radio quand l'hélicoptère décollait pour aller faire une mission de surveillance maritime ou faire comment dire, des vols de servitude, d'entraînement de retour en urgence ou par mauvaise visibilité. Donc ça c'est un peu comme la tour de contrôle d'un aéroport mais sur le bâtiment. Donc j'ai fait ça. Et par la suite, par message de candidature, j'ai postulé pour devenir télépilote drone. Donc de par mes expériences dans l'opérationnel, dans le contrôle tactique, etc. qui m'a permis d'intégrer le cursus télépilote pour être un peu plus acteur de la détection, de la surveillance. Donc en fait, le drone, on peut dire que c'est un senseur du bâtiment, mais déporté, qu'on peut amener plus loin. Enfin, par exemple, comme je disais, on a une détection assez lointaine, on n'a rien à la vue avec l'éveilleur, on peut envoyer le drone dessus et on aura directement l'information de ce que c'est comme l'identification de la piste.
Que via un capteur vidéo ou également avec des senseurs justement
Alors le drone qu'on utilise, c'est uniquement des. Enfin, il y a un. Ouais, non. Il y a le capteur vidéo OE et IR, donc infrarouge. Et on a aussi un AIS et un IFF. On a un IFF qui est juste transpondeur, donc on va juste émettre notre plaque d'immatriculation. Par contre, AIS, on va recevoir l'AIS, la situation AIS autour de nous. Qu'on va pouvoir, qui va nous aider à faire notre surveillance autour de la zone dédiée pour le drone.
En fait, ça devient une sorte de relais, c'est ça?
Non, enfin, ça peut, c'est pas comme un relais, mais en fait, lui, il va capter, oui, parce qu'il va capter les AIS autour de lui. Nous, on va les avoir sur notre situation tactique drone. On va pouvoir retransmettre après au central opération qui va venir étoffer
En fait,
la situation tactique, quoi.
ça
La
augmente la
portée,
portée, ouais.
c'est
D'accord.
ça. Là où se situe le vecteur. Et après, avec son optique, la OEIR, c'est un moyen d'identification et de surveillance pour avoir plus rapidement l'information sur les bâtiments. On peut lire leurs immatriculations directement à la vue, voir si ça concorde avec ce qu'on a électroniquement. Donc c'est vraiment une aide, une plus-value pour les bâtiments de surface, quoi.
D'accord. C'est le drone que vous utilisez ici sur le PH Mistral, c'est quoi?
Donc c'est le S100, Camcopter S100 de la société Schiebel, situé en Autriche. Donc c'est un hélicoptère, un mini-hélicoptère qui fait la taille à peu près d'une moto, 200 kg pour le poids maximal. Qui peut emporter jusqu'à 70 kg de payload, il me semble, donc on va dire de caméra ou de senseur ou de choses comme ça. Il a 6h30 d'autonomie, nous on se limite à 5h30. Il peut aller jusqu'à une élongation suivant l'antenne qu'on place pour la zone de vol, une élongation jusqu'à 200 km. Voilà, il peut monter jusqu'à 12 000 pieds, donc il peut couvrir une bonne surface pour faire des surmarches, de la surveillance, etc.
D'accord. 200 km, je ne m'en rends pas compte, mais avec l'autonomie qu'il a, il peut aller jusqu'à 200 km et revenir.
Ah oui, il peut aller jusqu'à 200 km, travailler pendant plusieurs heures et revenir. Il peut aller jusqu'à 100, 110 nœuds max, ce qui est à peu près 200. On va dire 200 km/h.
C'est pour je pense que ça intéressera les gens qui s'intéressent aux drones, au télépilotage. Et c'est quoi les différences avec un Reaper par exemple?
Alors, comment dire? Donc le drone S100, c'est vraiment un drone VTOL, donc vertical take-off and landing, donc qui va décoller et atterrir verticalement. Et donc il va pouvoir venir se poser assez facilement sur une plateforme d'un bâtiment de différentes marines, de toutes les marines, mais comme un hélicoptère, et donc pouvoir assurer une mission à bord d'un bâtiment qui n'est pas forcément doté de longues plateformes de décollage comme un porte-avions ou un porte-hélicoptère, mais là c'est les mauvais exemples du coup. Et du coup, ça va être pratique pour les missions maritimes, donc de décoller d'une plateforme mobile en mer. Ensuite, donc l'autonomie est moins grande qu'un Reaper. C'est pas du tout les mêmes envergures aussi de machines. Un Reaper, c'est un mâle, donc c'est un médium. Attendez, j'ai perdu le truc.
Ça va être altitude.
Ouais, medium altitude, long endurance. Donc eux, ils vont aller vraiment beaucoup plus haut va pouvoir rester quasiment de 12 à 24 heures sur une zone en vol. Et après, par contre, leur mission, ça va être à peu près la même, ça va être de la surveillance. Donc eux, ça sera vraiment des images plus, comment dire, comme si c'était un type satellite pour voir la zone vraiment du dessus. Alors qu'avec le vecteur, on va être beaucoup plus bas, comme on sera sur l'eau, déjà il n'y aura pas de relief, beaucoup moins dangerosité. Et ça va être la même chose, après ça va être de la surveillance et de l'identification. Après, dans la marine, il n'y a aucun drone qui est armé, contrairement aux Reapers qui peuvent être armés.
D'ogive, ouais, effectivement. Et le S100, il peut monter jusqu'à quelle altitude?
Il peut monter jusqu'à 12 000 pieds. Donc ça fait... en mètres, je sais pas si vous voulez en mètres ou pas.
Ouais, peut-être,
ça fait à peu près un peu moins de 4 000 mètres. Ouais, divisé par 3, 3,3.
Et là, les réglementations de l'aviation s'appliquent? Ou comment vous faites pour voler justement dans l'espace aérien des avions?
Alors, c'est là tout le problème, c'est que pour l'instant, c'est très compliqué avec entre la DGAC, tout ce qui est réglementation civile. C'est qu'un drone comme ça va devoir voler dans une zone ségrégée. Donc, par exemple, là, quand on a fait l'exercice aux côtes portugaises pour l'amphibie, on a dû demander des zones ségrégées. Donc, on a eu des NOTAM, donc des zones réservées pour le vecteur, comment dire, horizontalement et verticalement, pour avoir une boîte vraiment close. Et s'assurer que le contrôle de la tour fasse bien son travail pour dérouter, par exemple, les petits avions VFR, donc qui sont à basse altitude, pour pas qu'ils viennent dans la même zone que le vecteur. Parce que le vecteur n'a pas le droit de voler dans une zone où il y a des vols civils ou choses comme ça. Parce qu'on n'a pas le problème avec le drone, c'est qu'on n'a pas le voir à éviter qu'un pilote a, lui, dans sa cabine. Et du coup, pour le moment, c'est vraiment plus réglementé et plus dur de voler. C'est pour ça qu'après, sur un bâtiment de la marine qui est quasiment tout le temps en haute mer, c'est l'outil, on va dire, idéal, car il n'y a plus de zone de vol, ou sinon c'est très haut dans les airways qui sont à 24 000 ou 30 000 pieds.
Sur les trajets des longs courriers, par exemple,
C'est
ou ce
ça,
genre de choses.
c'est vraiment très très haut. Un avion pour voyager, plus il monte haut, plus il mettra moins de temps et moins de dépenses de carburant pour aller à sa destination. Donc nous, on reste vraiment, de toute façon, vu les performances de la caméra, etc., on monte pas rarement au-dessus de 5 000 pieds. Enfin, c'est vraiment donc 5 000 pieds, à peu près 1 600 mètres, quoi.
La caméra qui équipe le drone, c'est donc caméra jour, caméra nuit, il y a des caméras thermiques aussi dessus?
Ouais, alors en fait c'est une caméra jour et thermique, enfin une caméra jour, enfin il y en a deux même, une grand angle et un angle plus serré, et une caméra infrarouge, donc nuit, enfin qui peut être utilisée pour le jour et la nuit, mais qu'on utilise surtout, ouais, la nuit pour voir s'il y a des points chauds, pour repérer les endroits, enfin, même les individus, quand ils sont sur le pont, on voit la différence d'une température corporelle par rapport à la température de la coque, là où il y a les cheminées, si c'est en fonction ou non, des choses comme ça.
D'accord. C'est quoi les différents types de missions sur lesquelles vous êtes amené à faire décoller le vecteur?
Donc ça va être de la reconnaissance et de la surveillance, donc comme je disais, de la surmar, donc la surveillance maritime. Donc on va avoir une zone dédiée de surveillance. Donc on va devoir balayer la zone pour détecter, par exemple en amont de la route du bâtiment, savoir si y a d'autres bâtiments, si il va y avoir des militaires, des choses comme ça. Donc ça va être établir la situation tactique dans la zone dédiée. Ça peut être de l'appui vidéo et surveillance, comme on a fait par exemple là pour l'amphibie, de la reconnaissance d'une plage. Donc on va envoyer le vecteur, on va pouvoir filmer, regarder la plage de débarquement ou de récupération de ressortissants si c'était le cas. Donc et cela pendant plusieurs heures, donc pouvoir voir s'il y a des mouvements, s'il y a des choses irrégulières. La même chose en pleine mer. Donc, si par exemple on trouve un navire suspect de trafic de drogue ou de migration, de choses comme ça, pouvoir rester sur le client pendant plusieurs heures pour observer les réactions, s'ils vont jeter des ballots à l'eau, si ça bouge, si c'est coopérant, s'il y a des armes à bord avant la venue des équipes d'intervention. Donc ça va vraiment être de la surveillance et de la reconnaissance, savoir un préavis sur toutes les actions que peut mener le bâtiment.
D'accord. Ce drone en tant que capteur, je suppose qu'ensuite vous envoyez des images à la DRM en cas de mission particulière ou pas forcément, vous êtes décorrélé de ce service-là, de la direction du renseignement militaire?
Non, on est vraiment décorrélé parce qu'en fait on va... En fait, nous, on va envoyer à l'état-major du bâtiment, ici, qui, eux, vont être un peu le centre de décision de ce qui va se passer. Donc après, on ne fait pas non plus de renseignements qui vont intéresser jusqu'à la DRM, vraiment. Après, les images, oui, si on trouve un bâtiment qui est porteur de drogue ou choses comme ça, tous les renseignements vont être pris et vont être mis dans une database plus tard, après, voilà, pendant les rétex qui vont, ils vont avoir les informations. Mais nous, en direct, c'est vraiment pour fournir une image en direct et au bâtiment pour un appui à la décision aussi pour le commandant. Mais après, c'est le bâtiment qui envoie ou non par la suite aux renseignements.
J'imagine que, au même titre qu'un hélicoptère ou qu'un avion, voler dans un environnement qui est la haute mer, ça doit être particulier pour le matériel et pour le pilotage.
Ouais, alors pas pour le pilotage, c'est une plateforme mobile, donc forcément, nous on décolle et on apponte uniquement en mode manuel. Donc là, on est vraiment sur le pont avec notre joystick. Et on va mettre les actions pour décoller en fonction du vent, donc le vent relatif, le roulis, le tangage. Et pour l'appontage, ce sera pareil. Donc on va s'adapter au mouvement du bateau, prendre le temps pour poser, que ce soit les meilleures conditions possibles. Et une fois que ça s'est fait, alors pour le décollage, on va sur un PAD, donc c'est un point d'attente, qui va là. Où on va pouvoir passer nos actions vitales, donc pouvoir tester toutes les manettes du vecteur en avant, en arrière, en haut, en bas, sur les côtés, etc. Et après passer en mode automatique, où là on va donner la main à la personne qui est au central opération, sachant qu'on est trois télépilotes à chaque fois pour un drone, pour un vecteur. Donc il y en a un sur le pont au début, un au CO, enfin et deux au CO, un qui va être au contrôle. Du plan de vol. Donc là, on a établi un plan de vol avec des points de passage, avec des orbites, selon la mission.
En fait, vous dessinez la trajectoire en amont et après la machine va toute seule.
C'est ça, on dessine la trajectoire avec des points de passage en donnant la vitesse du vecteur, l'altitude qu'il doit adopter, son comportement quand il arrive à un waypoint, s'il doit attendre, s'il doit faire un orbite, s'il doit passer juste le point de passage et aller au suivant. Donc lui, il contrôle toute la mission après de l'ordinateur. Et un troisième qui est à la charge utile. Donc lui, il va vraiment piloter que la caméra et pouvoir passer de la caméra OE à la caméra IR, prendre des photos. L'enregistrement, il est permanent. Donc ça, c'est. Et après, c'est pouvoir identifier, quoi. Donc pendant qu'un qui contrôle le vecteur, l'autre va être à la caméra pour commencer à identifier le bâtiment, savoir combien il y a de personnes à bord, s'il y a des armes, des choses comme ça. Et donc pour l'appontage, c'est pareil. La troisième personne remonte et va donc sur le pont d'envol, récupère manuellement le vecteur et va le poser manuellement sur la plateforme. Donc en prenant en compte le roulis, le tangage, le vent, etc.
Ça va pas être simple, ça.
Ça dépend des conditions.
Quand la mer est agitée, ça va être assez rock'n'roll, non?
Oui, un petit peu, oui.
Il n'y a pas de mode automatique, comme sur le Mavic?
Il y a des modes automatiques, mais là, pour ce système-là, la marine a décidé que ça se passait comme ça. Personnellement, je le préfère, parce que ça fait de la manipulation. Si tout était automatique, c'était un peu moins fun, on va dire. Mais non, du coup, là, c'est...
Puis est-ce que ce serait techniquement possible? Parce que... Je connais un petit peu le système des Mavic, des petits drones, un petit peu de loisirs, mais bon, un petit peu professionnel. Et je sais que quand on essaie d'atterrir sur un bateau, si le bateau a déjà changé sa trajectoire, arrivé au niveau de l'eau, enfin arrivé au niveau du bateau, le drone panique un peu et retrouve pas exactement la. Il n'y a pas de return to home déjà possible. Et puis ensuite, avec je m'y connais pas trop, mais le tangage, etc., c'est un peu compliqué.
Bah, le problème c'est qu'avec ces drones-là, nous ce qu'on appelle les micro-drones, c'est par exemple pour faire ça, ils vont prendre une photo au décollage de là où ils vont décoller. Donc il y a une petite caméra en dessous qui va permettre de prendre la photo pour avoir une précise land position. Et par exemple, si c'est le coin là, d'un tapis comme ça, il va revenir, retrouver le coin et poser. Sauf que comme il y a des mouvements et que ça bouge, ça va être plus compliqué pour lui. Après, sur des systèmes plus gros comme ça, c'est possible avec des positions GPS, sachant que nous, on a plusieurs antennes qui sont installées sur le bâtiment. On a aussi une centrale inertielle qui envoie les informations. De roulis tangage, etc., au vecteur. Donc, il est possible de le faire avec, mais comment dire, la DGA et la marine sont restés sur la capacité en manuel. Le futur drone tactique comme ça, qui est en train d'être développé par Airbus, lui, normalement, sera entièrement automatique du décollage à l'appontage.
Ça, c'est le futur, le drone qui remplacera le S100.
C'est ça, qui normalement devrait arriver en 2032 à peu près.
D'accord.
Ouais, donc ouais. Encore un peu de temps.
Un peu de temps, effectivement.
Ouais. Et après, sachant que là, le S100, ça fait 10 ans et il est toujours en expérimentation au niveau de la marine, donc on est toujours en centre d'expérimentation. Là, celui qu'on a ici, c'est une nouvelle version, donc ça a dû. On a été soumis à refaire tous les tests avec le vecteur. Donc là, moi, j'étais pas là au début de la mission, mais il y avait une équipe d'essai qui était là avec DGA, etc., pour les performances du vecteur, parce que si l'élongation, est-ce que elle est bonne, les réactions en cas de perte de liaison, est-ce qu'il va bien retourner sur le point défini qui. L'attitude générale du vecteur quand on monte à 12 000 pieds, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est toujours conforme, des choses comme ça. Ils ont testé tout de fond en comble, ce qui nous a permis, après, moi je suis arrivé pour remplacer un collègue qui était avec la DGA, pour pouvoir avoir une autorisation de vol, donc délivrée toujours par la DGA. Et pouvoir voler avec le vecteur toujours dans un contexte d'expérimentation ou opérationnel si on était sous article 10.
Ce drone, il est, vous avez toutes les capacités au sein de la Marine nationale pour faire la maintenance, pour faire la réparation, changer les pièces. C'est ou ça. Il y a un industriel qui est obligé de travailler avec vous, comme les Reapers à un moment donné avec l'armée française?
Non, alors nous, en fait, pendant la formation de télépilote ou de technicien, donc un détachement, on est 3 télépilotes et 2 techniciens. On a une formation directement chez l'industriel de entre 8 et 10 semaines, suivant le parcours de chacun. Et chez l'industriel, directement en Autriche, donc la formation tout en anglais, sur le drone entièrement, donc la doc technique, la manipulation, les maintenances, tout.
D'accord. C'est clair en main, quoi.
C'est ça. Donc après, nous, on peut faire... on peut tout faire sans l'industriel. Par contre, lorsqu'on a un souci ou par exemple une panne ou choses comme ça, on envoie les logs du lecteur. Voilà, c'est ça. On a un SAV avec des contrats. Mais le problème, c'est que pour l'instant, comme on est toujours en expérimentation, on passe par DGA et Naval Group. Et du coup, on n'a pas de, comme on appelle ça dans la marine, de PCO, MCO. Donc, on n'a pas de pièces de rechange à foison comme un détachement hélicoptère qui a une panne, il peut avoir la pièce assez rapidement. Nous, si on n'a pas eu le package avec cette pièce-là dedans, on peut facilement rester bloqué jusqu'à ce que les fonds soient réouverts. Donc c'est pour ça que là, on espère rapidement passer opérationnel, vraiment opérationnel. D'ailleurs, quand ce sera le cas, normalement, on devrait être détaché avec une flottille, hélicoptère. Parce que le but de la marine qui avait été donné plusieurs années en arrière, c'est d'avoir un hélicoptère et un drone sur chaque bâtiment pour pouvoir se compléter dans les missions.
Là, c'est pas le cas aujourd'hui?
C'est pas le cas sur tous les bâtiments, mais c'est en bonne évolution.
D'accord.
Parce qu'il y a d'autres systèmes de drones aussi. Il y a l'Aliaka SMDM, donc ça, c'est à voilure fixe. Donc il va être envoyé sur des plus petits bâtiments qui n'auront pas forcément de plateforme hélicoptère. Donc celui-là va être envoyé par catapulte et récupéré dans un filet, mais toujours en pleine mer. Donc il a moins d'endurance, il a moins de portée, mais ça reste un senseur déporté du bâtiment qui va aider à la situation tactique. Et ceux-là commencent à vraiment arriver sur pas mal de types de bateaux.
C'est un peu comme le Drac?
C'est un peu comme le Drac, oui. C'est à peu près la même taille. C'est, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais niveau portée, ils doivent être à une cinquantaine de kilomètres et niveau endurance, dans les 1h30, 2h.
D'accord.
Totalement électrique, alors que le nôtre est thermique. Mais voilà, et donc normalement le but de la marine, ce serait qu'il y ait un hélicoptère et un drone sur chaque bâtiment pour pouvoir se compléter. Par exemple, le drone, en faisant toutes les missions de surveillance et de reconnaissance, vont permettre de pouvoir garder du potentiel à l'hélicoptère pour faire de transport de personnel, transport de matériel, du sauvetage en mer, des choses comme ça.
On en est loin du remplacement des hélicos par des drones, oui. Le jour on pourra avoir des drones qui seront un peu comme les taxis volants ou...
Ouais. Moi, je pense qu'on en est loin par rapport à rien que déjà, comme on parlait tout à l'heure de la réglementation, qu'il y aura toujours des pilotes humains dans des machines qui devront cohabiter avec des drones. Avant que ça arrive, ça sera, je pense, assez long. Même si la législation européenne, parce que maintenant c'est européen pour les drones, avance petit à petit pour faire avancer les choses. Et le remplacement total, je pense qu'on sera peut-être nos petits-enfants. Verront ça, je ne sais pas. Après, je peux pas dire.
Ah, je vous pose cette question parce que j'avais interrogé le chef de détachement de drones Reaper à Niamey. Qui me disait que, parce qu'il avait été pilote sur Mirage 2000 avant.
D'accord.
Et il me disait que lui, il voyait de plus en plus proche ce moment de bascule où, mais bon, c'est la chasse, c'est pas exactement pareil, c'est pas le même type de mission. C'est pas, y a pas de transport, mais qu'en gros, il me disait que les chasseurs allaient bientôt être progressivement remplacés par des Reapers, quoi, ou des drones armés. D'ailleurs, est-ce qu'on peut Est-ce que hypothétiquement on peut l'armer, le S100? Est-ce qu'il est.
Il a pas de. Comment dire? L'industriel n'a pas d'option armement avec lui.
Ça n'a pas été pensé au départ.
Je pense que ça a été pensé, mais lui ne le veut pas déjà. Et même la marine ne s'intéresse pas à avoir de l'armement sur un drone pour le moment. Là, pour le moment, il n'y a que un Reaper les Reapers de l'armée de l'air récemment qui peuvent être armés. Mais alors, il me semble qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser comme ils veulent pour l'instant encore. C'est un peu.
Ouais. Ça date de 2019, de mémoire. Ouais. C'est assez récent. Ouais.
Mais ils sont assez restreints par rapport aux Reapers sans armes pour pouvoir voler. Et ceux avec les armes sont beaucoup plus restreints, de ce que j'ai entendu dire après. J'ai pas les sources non plus.
Ouais. Y a d'autres armées qui utilisent le S100? Peut-être l'armée autrichienne pour le coup?
Alors l'armée autrichienne, je sais pas. Mais y a les Australiens qui ont une grande flotte de S100. D'ailleurs, Schiebel a carrément du coup fait construire une succursale, enfin, je sais pas si on peut dire ça, une succursale en Australie pour ça, avec. En embauchant des Australiens, les formant pour qu'ils puissent former eux-mêmes les futurs pilotes là-bas. Les Émirats Arabes Unis aussi, on en a pas mal. Et après, il y a pas mal de sociétés, des sociétés civiles aussi qui utilisent le drone S100 comme Nordicon Main par exemple, ou sous l'édige de. J'ai plus le nom, de l'ESRA. Non, c'est pas l'ESRA.
C'est des plateformes offshore, non?
Non,
qui utilisent ça?
C'est pas du tout.
Alors, c'est. Alors, j'ai plus le nom, mais en gros, c'est une société qui va faire de l'antipollution. Et donc, qui va prendre un sous-traitant, donc Nordicon Main, qui a acheté les drones, qui a formé ses pilotes, pour aller faire du sniffing au niveau des bâtiments de commerce, donc les porte-conteneurs, les choses comme ça, qui vont aller derrière la cheminée. Renifler la fumée que dégage le bâtiment, et en fonction des particules qui sont détectées ou non, voir s'ils sont dans les tolérances et dans les de pollution, et ensuite va mettre une amende, et si c'est pas dans les bonnes dans les normes européennes, quoi.
D'accord.
Est-ce qu'il y a de la surveillance privée, justement, je pense aux plateformes offshore, ou est-ce qu'il y a ce système qui est utilisé par des civils?
Par des civils, oui, comme je viens de vous le dire, mais par contre, par des sociétés privées de défense ou choses comme ça, je ne sais pas du tout. J'en ai pas entendu parler, en tout cas.
D'accord.
Mais après, c'est un drone qui est vendu... par la société, donc c'est eux qui... C'est pas un drone vraiment militaire que armé, etc. Donc,
C'est considéré comme du matériel militaire, justement?
Nous, oui, parce qu'il doit...
Il correspond qu'à des charges d'aide déjà.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Mais après, dans un civil, une boîte civile, on monte une boîte civile, on achète un parc de drones, on peut monter sa boîte et offrir ses services pour différentes missions, mais...
Vous, à titre personnel, le drone, j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes lancé là-dedans. Est-ce que à côté, pendant vos temps libres, vous faites du pilotage? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse?
Alors, c'est quelque chose qui est venu assez récemment, parce que beaucoup, quand j'étais encore en surface, j'étais sur le bâtiment Lafayette, et pendant la Jeanne d'Arc de 2019, on était dessus, on était là pour expérimenter le premier micro-drone en fait, qui allait être livré à tous les bâtiments. Donc c'est un Parrot-Anafi. Et donc de voir si ses capacités, son endurance, ces choses comme ça, pouvaient servir aux bâtiments de surface. Et du coup, pour faire le test, ils ont pris les contrôleurs tactiques du bord. Donc, dont j'en faisais partie. Et on a pu faire pendant du coup 5 mois et demi de mission, des vols, de performance, d'éloignement, de caractéristiques, de prise de photos, etc. Et bah, c'est de là où ça m'a commencé à m'intéresser, où j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Et c'est d'ailleurs après, comment dire, donc après ça, après cette petite formation là, que bah, j'ai entendu parler des drones, que j'ai attendu le message pour postuler et que je suis entré pilote S100, mais je suis aussi donc pilote micro-drone, donc je fais du l'ANAFI, du DJI, des choses comme ça, toujours dans l'expérimentation, ou des concours pour des systèmes de détection d'anti-drones ou choses comme ça. Et ce que j'ai fait quasiment pendant un an. Et donc du coup, par exemple, l'ANAFI USA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc drone, micro-drone qui va être livré en interarmée, donc armée de terre, armée de l'air et marine, qui a commencé à être livré d'ailleurs. Et donc on a expérimenté le vecteur avant de valider le fait que ça soit livré aux armées. Donc par une série de tests, par des élongations d'images, de détection, d'endurance, de tenue au vent, de choses comme ça.
Dans le cadre de la section technique de la marine
ou... C'est ça. Ouais. C'est en fait, CPA, c'est le centre d'expérimentation des programmes aéronautiques navals. Enfin, aéronautiques. Et du coup, ça nous donne du matériel pour faire des tests, mais pas que en drone, hein. Et puis ça peut être sur les futurs hélicoptères, les choses comme ça. Et donc là, on avait pour but de tester ce vecteur, de voir s'il y avait des dysfonctionnements, si c'est bon ou non. Ou d'ailleurs, on a remarqué qu'il y avait un dysfonctionnement sur une pièce et que ça a mis 6 mois de délai pour le temps que l'industriel rechange toute la série de production. Et pour après valider le fait ou non que la marine accepte que ce matériel soit livré à toutes ses forces, que le contrat soit... Il y a eu la même chose à l'armée de terre, il y a eu la même chose à l'armée de l'air. Et suivant tous les comptes rendus, on donne des idées d'amélioration aussi, parce que ça reste un drone comment dire, civil qui a été adapté militaire à la base. Et donc il y a toujours des améliorations parce qu'ils n'ont pas la vision tactique qu'on pourrait avoir nous sur le terrain ou choses comme ça.
Et alors le Parrot, ça donnait quoi? Vous en avez crashé combien?
Bah, au début justement, il y a eu quelques crashs dû au dysfonctionnement mécanique. Mais une fois que ça a été mis à jour, etc., c'était très bien, quoi.
En mer, c'est quoi ce qu'il aime pas le drone? C'est le sel, c'est le vent?
Ouais, alors ça va être surtout le sel, donc tout l'environnement salin qui va venir pouvoir s'incruster dans toutes les petites failles, tout comme ça, et qui va oxyder les pièces. Donc il y a ça, et puis après, le vent, après ça reste comme sur Terre. Enfin, mais c'est vraiment l'environnement salin qui va être compliqué. Et puis aussi, comme on disait pour l'appontage, il faut qu'il ait des pieds renforcés, adaptés à ça, pour éviter les chocs trop... Enfin, parce que des fois, il peut y avoir des chocs un peu plus violents et que ça casse pas à ce moment-là, quoi. Donc c'est surtout ça qui est adapté, quoi.
Vous avez déjà testé des drones, j'ai vu ça sur des salons type Millipol, Eurosatory, des drones capables de se poser dans l'eau avec des sortes d'aéroglisseurs.
Moi, j'ai jamais testé personnellement. Après,
il n'y a jamais d'industriels qui viennent sur des bâtiments de la marine pour tester des choses en accord avec la DGA ou ce genre de choses?
Non, par contre, nous, des fois, on va à des conventions, des salons, des choses comme ça, ou des rassemblements de drones. Par exemple, là, il y avait, moi c'était l'année dernière, il y avait un rassemblement, alors j'ai plus le nom, mais c'est en gros une association de drones région sud, qui, donc plusieurs boîtes s'étaient rassemblées pour montrer leur prototype de drones multi-espaces, donc air, eau et sous-marin. Donc souvent avec des systèmes qui combinent les trois en même temps. Donc un drone qui va décoller d'un petit Zodiac lui-même dronisé et des fois avec un élément sous-marin, enfin, pour vraiment avoir une surveillance globale d'un plan d'eau. Et par exemple pour les JO qui vont arriver, où la partie nautique va se passer vers Marseille, il me semble. Et donc essayer de remporter les contrats pour ça. Nous, on y assiste aussi, on prend des idées, on voit ce qui pourrait être intéressant pour la marine, pour une application militaire. Et après, ensuite, on fait des comptes rendus et puis c'est envoyé plus haut. Et si ça intéresse vraiment, s'ils y voient une plus-value, peut-être qu'après, ça redescend en programme d'expérimentation en achetant un ou deux vecteurs et en faisant des tests. Et là, par exemple, on est en train de... Depuis peu, là, depuis... juste avant que je parte en mission, je sortais une formation sur l'Hercule 20. Donc c'est un drone qui est capable de porter jusqu'à une charge jusqu'à 15 kg, qui a une endurance de 40 minutes à vide, mais dégressif, plus on porte, plus le poids est lourd de la charge. Et ce qui nous intéresserait, par exemple, c'est on est en train de tester, c'est voir s'il ne pouvait pas remplacer un hélicoptère pour faire un transfert de logistique. Parce que, par exemple, il y a plus de 50% de la logistique entre bâtiments, de pièces de rechange, des choses comme ça, c'est des pièces qui font moins de 15 kg. Et donc, qui serait beaucoup plus intéressant au niveau de temps, enfin gain de temps, gain de sous, mm-hmm. Faut bien le dire.
Puis pour la planète.
Et pour la planète aussi. Sur, en faisant des transferts comme ça par drone plutôt que par un hélicoptère ou une embarcation rapide.
Il faut demander à Amazon, ça, ils commencent à être bons là-dedans.
Apparemment, mais plutôt vers les États-Unis.
Ouais.
En Europe, je pense qu'il y aura un peu de temps encore.
Justement, vous regardez ce que font les autres armées, l'armée américaine notamment, surtout sur une mission comme celle sur laquelle on est actuellement, une mission Jeanne d'Arc, où vous avez fait des escales sur plusieurs pays. Vous regardez un peu quels sont les moyens des autres ?
Oui, bah même sans faire des missions dans les pays, etc., on a toujours une veille technologique apportée par les différents membres du détachement, où on est un petit peu passionné par la chose, on regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche, et quand quelqu'un trouve un article intéressant, le transfère. Puis après, pareil, c'est remonté par des brèves technologiques à l'état-major, etc., pour montrer que, par exemple, d'autres armées utilisent aussi le S-100 et l'utilisent comme ça, et que ça peut donner des idées à d'autres marines de faire la même ou non.
D'accord. Et qui dit drone dit aussi anti-drone, forcément. Je sais que c'est toujours un peu plus confidentiel, ce genre de choses. Est-ce que sur le PH il y a des, ou sur une frégate, il y a des armements anti-drone ?
Alors ici, je ne sais pas s'il y en a. Après, je sais que sur les bases navales ou les bases aéronavales, il y a des systèmes anti-drone. Et c'est toujours pareil, comme vous le dites, en amélioration. Parce que le drone est monté très très rapidement, la technologie. Et toute la technologie anti-drone est encore un peu derrière, commence à le rattraper. Et c'est testé, pareil, avec des sociétés civiles qui proposent leurs solutions et qu'on teste, qu'on compare. Donc là, ce sera plutôt, ce sera plutôt la partie navale qui expérimente tout ça. Nous, on apporte notre concours de pilote de drone pour pouvoir simuler des attaques ou des choses comme ça, mais c'est plutôt eux qui sont en charge de ces programmes-là. Mais ça avance après sur les bâtiments. Pour l'instant, je pense pas. Ou peut-être le Charles, sûrement. Mais ici, je sais pas s'ils ont un système anti-drone.
D'accord. C'est étonnant que ce soit des services différents. Dans le podcast, on avait reçu un des responsables de la cellule drone du RAID. Et ils nous expliquaient que c'était eux qui géraient aussi tout ce qui était anti-drone parce que c'était plus... Après, c'est pas dimensionnant comme la Marine Nationale, forcément, mais c'était intéressant de discuter drone, anti-drone. Et quand vous dites c'est derrière, ça se rattrape, mais on sent quand même qu'il y a un décalage énorme. Il n'y a pas vraiment de système anti-drone vraiment efficace, quoi.
Bah, il y en a, hein, mais le problème, c'est que c'est pas ciblé que anti-drone. On a vu... Je ne sais pas si vous vous souvenez, déchiré de 14 juillet de je ne sais plus quelle année, Il y a un drone qui est arrivé, ils ont activé un brouilleur, sauf que ça a brouillé le drone, mais aussi pas mal de choses.
Des imbéciles derrière.
Okay. Voilà. Donc ça, c'est pas encore. Enfin, les drones sont plus performants que les systèmes anti-drones pour le moment. Mais ça se rattrape assez facilement. Enfin, assez facilement. Au fil du temps, ça se rattrape. Et il y en a beaucoup plus de solutions qu'il y a un an ou deux ans en arrière. Maintenant, c'est bon, quand même plus développé. Ouais.
Le S100, il a déjà été victime d'un système anti-drone ?
Pas de système anti-drone, mais de brouillage GPS. Par exemple, dans des zones de conflit comme la Syrie ou la Libye, des choses comme ça. Il y a beaucoup de brouillage GPS et donc lui en a été victime par comme tout ce qui est dans la zone. Et mais après c'était pas vraiment ciblé anti-drone quoi, c'était vraiment qu'il se retrouvait dans une zone où tous les GPS étaient. C'est pour ça que la nouvelle version là on a un GPS anti-jamming, donc anti-brouillage, et qui nous permettrait de continuer de voler même s'il y avait un brouillage GPS. En faisant de la recherche en permanence de GPS, etc.
D'accord. Mais sans GPS, il ne peut pas rester stationnaire et continuer à voler ?
Alors, il va rester stationnaire jusqu'à un moment où il va commencer à dériver avec le vent, ouais. Des choses comme ça. Mais c'est comme un LFI, il va être beaucoup moins précis, ou un DJI s'il n'a pas les GPS. Il va rester dans une zone plutôt
précise. On peut continuer à le piloter.
Oui.
Ouais. Mais bon, à 200 km, c'est pas simple.
Voilà. On préfère revenir dans une zone où on a la position précise du vecteur. Ouais. Même pour la sécurité. La sécurité, s'il y avait un autre vol autour ou un bâtiment, on n'a pas le droit de survol d'un bâtiment comme avec un drone civil qu'on achète à la FNAC. On n'a pas le droit de survoler des foules, on n'a pas le droit de survoler quand ça s'appelle des hôpitaux ou des centrales électriques, des choses comme ça. Là, avec le vecteur, on n'a pas le droit de survoler un bâtiment civil ou même militaire. On a des distances à respecter. Si on n'a plus la position du vecteur, on ne sait pas si on est en train ou non de outrepasser ses limites, quoi.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette spécialité, dans la marine notamment pour le coup?
C'est de s'intéresser donc aux nouvelles technologies, de s'intéresser forcément aux drones. Après, nous dans la marine, ce qui est recherché, c'est un minimum de niveau d'anglais, parce que forcément, avec la formation pour l'instant se faisant en Autriche, tout en anglais. Les docs techniques sont toutes en anglais également. Souvent, c'est pas encore arrivé, mais sur des fréquences, si on doit parler avec d'autres pays, ce sera de l'anglais également. Donc ça, et puis après être, comment dire, c'est un peu comme parce que après c'est le recrutement en interne, c'est donc d'avoir un côté opérationnel, donc un côté tactique, un côté un peu stratégie, des choses comme ça. Donc si on vient du civil, c'est pareil, c'est d'aimer tout ce qui est un peu des opérations, vouloir vivre un peu dans l'action, on va dire. Et après, on conseille, c'est tenter votre chance.
Alors, en tout cas, c'est un boulot qui a l'air vraiment passionnant. Merci pour votre partage et bonne fin de mission sur Jeanne d'Arc.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc, et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisées sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.